à Washington.
Abdelrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Ce vendredi 26 janvier 2018 au sommaire. Le président Donald Trump vante les performances économiques des États-Unis au Forum économique mondial de Davos. Il rassure que l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique toute seule. Au Niger, 9 militaires et 11 civils condamnés à des peines de 5 à 15 ans pour avoir tenté de renverser le régime. Le sommet de l'Union africaine se tient ce week-end sur fond de réformes dans le financement de l'organisation. Le président congolais Joseph Kabila accuse l'opposition de proposer un saut dans l'inconnu au sujet du processus électoral. Et au Burundi, la taxe pour financer les élections ne fait pas l'unanimité. Ce sera dans la partie magazine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. On débarque d'abord au Niger, où 9 militaires et 11 civils ont été condamnés ce vendredi par un tribunal militaire nigérien de 5 à 15 ans de prison pour avoir tenté de renverser le régime en 2015. Le point avec Abdulrazak Idrissa.
Le tribunal militaire a reconnu le général Salou Souleymane coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 15 ans d'emprisonnement ferme. Deux autres militaires, dont le lieutenant Ousmane Awal Ambali, écopent de la même peine. Trois autres officiers, eux, sont condamnés à 10 ans de prison. Le fils du général Salou Souleymane et deux autres militaires, eux, ont été condamnés à 5 années d'emprisonnement. Le commandant de la base aérienne de Niamey, qui avait, selon l'accusation, pour mission, si l'opération de 2015 devait se tenir, bombarder le palais présidentiel, le lieutenant-colonel Idi Abdou Danhawa a lui simplement et purement été acquitté par le tribunal faute de preuves suffisantes. Il en est de même pour le colonel Tahirou Zarma et un des gardes du général Salou. Selon le code de justice militaire, les condamnés n'ont pas de possibilité de recours. C'est donc l'épilogue d'un procès de 4 jours qui s'est tenu après plus de 2 années de privation de liberté pour les accusés, l'affaire remontant à décembre 2015 où le président Issoufou Mahamadou annonçait dans un message qu'une tentative de renversement de son régime avait été déjouée par les services de renseignement. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le président congolais Joseph Kabila accuse l'opposition de proposer un saut dans l'inconnu sur le processus électoral. Dans sa première conférence de presse depuis 2012, le président Kabila a ajouté qu'il souhaitait également clarifier les relations avec les Nations Unies. Thierry Kambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
S'exprimant pour la première fois en conférence de presse depuis plusieurs années, Joseph Kabila a commencé par rappeler le contexte dans lequel, il y a 17 ans jour pour jour, il avait pris le pouvoir. Pays divisé par la guerre et surendetté, la République démocratique du Congo était en crise, a-t-il dit. Ma plus grande réussite a été la réunification du pays. Il s'est ensuite félicité du vote de l'actuelle constitution actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. J'ai battu campagne seul pour cette constitution alors que beaucoup qui y étaient opposés et l'avaient combattu la défendent aujourd'hui. Joseph Kabila a par ailleurs rappelé que les deux élections en 2006 comme en 2011 ont été émaillées de tensions, accusant l'Église catholique d'être à chaque fois du côté de ceux qui en ont contesté les résultats. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on veut tout mélanger, le résultat n'est pas toujours bon, précise-t-il. Pour les prochaines élections autofinancées par le gouvernement, mon souci est que la cohésion et la paix règnent même après la publication des résultats, a dit Joseph Kabila. Serez-vous candidat à la présidentielle de 2018 ? Lui demande alors une journaliste. Le président Kabila répond avec une dose d'ironie : veuillez remettre une copie de la Constitution à ma petite sœur journaliste pour qu'il la lise. Et à une autre question sur le référendum pour lui permettre de briguer un troisième mandat, le président Kabila a répondu : la CENI a publié un calendrier, je n'ai vu nulle part le référendum. Concernant la répression des dernières manifestations politiques, Joseph Kabila s'est dit favorable aux manifestations pacifiques et politiques, mais dans le respect et l'ordre. Je déplore les morts et vous annonce que le policier qui a tiré sur un manifestant a été arrêté. Mais il faut également que les manifestants se conforment à la loi, précise le président de la République. Enfin, Joseph Kabila a critiqué la MONUSCO qui, selon ses termes, n'a éradiqué aucun groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo et a à plusieurs reprises violé l'accord de siège de la SOFA. Concernant la Belgique et les relations diplomatiques tendues avec Kinshasa, Joseph Kabila souligne qu'il n'y a pas d'animosité avec la Belgique, qui doit tout de même comprendre, selon lui, que la République démocratique du Congo n'est plus une colonie. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Je vous le disais dans les titres, le Forum économique mondial a pris fin ce vendredi à Davos, en Suisse. Le président Donald Trump a livré un discours visant à rassurer les partenaires diplomatiques et commerciaux des États-Unis. Et en marge du forum, il s'est entretenu avec son homologue rwandais. Morgan Guiriet, que vous êtes en direct dans ce studio, vous avez plus d'informations pour nous.
Oui, alors à l'occasion de cette grande messe du capitalisme et du libre-échange, Donald Trump, champion du protectionnisme américain, a tenu à rassurer les partenaires des États-Unis. En tant que président des États-Unis, je mettrai toujours l'Amérique au premier plan, tout comme les dirigeants des autres pays devraient mettre leur pays en premier. Mais l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique, mais le monde entier. Monsieur Trump a insisté sur le fait que les accords de libre-échange devaient être équitables et réciproques. Voici ce qu'il a dit. Les États-Unis ne fermeront plus les yeux sur les pratiques économiques déloyales, notamment le vol massif de propriété intellectuelle, les subventions industrielles et la planification économique généralisée dirigée par l'État qui fausse les marchés mondiaux, nuisent aux entreprises et aux travailleurs aux États-Unis et dans le monde entier. Fin de citation. Donald Trump a défendu sa réforme fiscale en affirmant qu'en réduisant les taxes, il encourageait un environnement favorable aux affaires. Alors sur les avantages et les désavantages de cette réforme, nous écoutons François Seznec, économiste à la Johns Hopkins University.
C'est une réforme qui est assez intéressante pour les grandes compagnies américaines. Elles vont pouvoir rapatrier des fonds qui sont en ce moment gardés à l'étranger avec simplement 15% de taxes au lieu de 35% comme c'était avant. Donc Apple vient de décider de le rapatrier, un peu plus de 300 milliards de dollars qui vont être investis aux États-Unis, mais qui vont leur coûter tout 30 ou 40 milliards de dollars de taxes. Un avantage pour les États-Unis, ça va créer beaucoup d'investissements industriels ici, et beaucoup de compagnies vont faire la même chose. Alors bien sûr, qui est-ce qui va payer pour tout ça? Parce que le déficit budgétaire des États-Unis va augmenter, la dette fondamentale des États-Unis va augmenter de 1 trillion de dollars et demi. Alors Trump a vendu ça à la classe moyenne en disant vous allez avoir un petit avantage fiscal pour le moment, et c'est vrai. Pendant 2 ans, il va y avoir un avantage fiscal pour les classes moyennes. Le problème, c'est que plus tard, ces avantages vont être annulés. Finalement, qui va payer? On ne sait pas encore.
Voilà pour l'analyse de François Seznec, économiste à la Johns Hopkins University. Par ailleurs, en marge de ce forum, Donald Trump a rencontré son homologue rwandais, avec qui il a eu des échanges chaleureux. Le chef de l'exécutif américain a qualifié de formidable ses discussions avec Paul Kagame et fait l'éloge du partenariat entre les États-Unis et le Rwanda. Voici ce qu'il a dit. Nous commerçons avec le Rwanda et en général, je dirais que nos relations sont excellentes. Paul Kagame a répondu sur le même ton en insistant sur le soutien qu'apportent les États-Unis à son pays. Le Rwanda a énormément bénéficié de l'appui des États-Unis. Vous avez soutenu notre économie avec le commerce et l'investissement. Nous voyons beaucoup de touristes des États-Unis venir au Rwanda, a déclaré Paul Kagame. Donald Trump en a profité pour envoyer ses salutations les plus chaleureuses aux autres dirigeants africains qui doivent tenir à partir de dimanche le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Voilà Abdourahman.
Morgan Guiriec en direct du Monde aujourd'hui. Et justement, Morgan, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, vous le disiez tout à l'heure, se réunissent en sommet le 28 et 29 janvier dans la capitale éthiopienne pour débattre de plusieurs sujets qui concernent l'organisation panafricaine à leur tête, la sécurité et le développement également, la lutte contre la corruption. Salwa Jafari.
première séance photo des participants au troisième sommet de l'Union africaine ce vendredi, à l'heure où d'autres chefs d'État et dignitaires continuent d'affluer vers Addis Abeba. Antonio Guterres, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon et autres sont attendus aujourd'hui. Vaincre la corruption, une option durable de transformation de l'Afrique est le thème retenu pour ce sommet dont les sessions ministérielles ont débuté jeudi. Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité auprès de l'Union africaine.
Je pense que le thème est très important car nous considérons la corruption comme l'un des déclencheurs des conflits dans l'ensemble. Il s'agit de gouvernance politique.
Les dirigeants africains devront également discuter des moyens de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment sécuritaires et économiques, afin de réaliser les objectifs de paix et développement inscrits dans l'agenda 2063. Les crises et conflits qui secouent le continent seront également à l'ordre du jour, comme le chaos en Libye et en Centrafrique, les groupes djihadistes dans certaines parties du Sahel, les tensions en République démocratique du Congo et au Cameroun.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne avec l'actualité économique, la Minute Éco avec Dili Dico.
Au Maroc, le secteur de la plasturgie devrait générer 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 475 000 emplois en 2023, selon l'agence Ecofin. Les autorités marocaines et les opérateurs du secteur de la plasturgie ont présenté ce jeudi les grandes lignes permettant d'atteindre ces projections. Au Maroc, 650 entreprises font partie de l'industrie de la plasturgie qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 du pays. Au Burkina Faso, la fondation Bill et Melinda Gates va octroyer un don de 23 milliards de francs CFA pour appuyer le PNDES, le plan national de développement économique et social. Les autorités burkinabées ont précisé que ce don permettra de financer plusieurs projets dans le domaine de la nutrition et du planning familial. Le PNDES a pour objectif d'améliorer le niveau de vie des populations défavorisées au Burkina et rendre l'économie du pays plus compétitive d'ici 2020. Les prix des métaux de base ont grimpé 7 semaines après que la Maison-Blanche a donné le ton du marché en provoquant l'affaiblissement du dollar. Les prix de l'aluminium, du plomb, de l'étain, du nickel et le zinc ont augmenté sur la semaine, notamment à cause des annonces d'investissement faites par Donald Trump. Son plan d'investissement pourrait potentiellement doper la demande de métaux de base sur les années à venir en raison du développement des infrastructures promis par le président.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Aucun match aujourd'hui au Maroc, journée de repos au CHAN 2018.
Et oui, on attend les quarts de finale qui commencent ce week-end dans le royaume chérifien. Samedi, Maroc-Namibie, c'est à Casablanca. Le pays organisateur qui veut remporter la compétition devant son public et qui devra se méfier du piège namibien. On fait le point au Maroc avec Amine Birouk pour VOA Afrique.
Sur le papier, le premier quart de finale du CHAN 2018 entre le Maroc et la Namibie semble déséquilibré. En effet, le pays organisateur a l'avantage de jouer devant son public et possède dans son effectif des joueurs rompus aux joutes continentales. De plus, les Lions de l'Atlas ont réalisé 2 sorties convaincantes devant la Mauritanie et la Guinée lors du premier tour. Néanmoins, les Brave Warriors ont une belle carte à jouer à Casablanca. Tout d'abord, les hommes de Manetti disposent d'une organisation de jeu très rigoureuse. Par ailleurs, leur état d'esprit est irréprochable. Enfin, lors de leur match du premier tour, ils ont montré de gros arguments. Résultat des courses, la Namibie a battu la Côte d'Ivoire et l'Ouganda et contraint au nul la Zambie. D'ailleurs, les joueurs espèrent poursuivre leur aventure jusqu'en demi-finale au moins, quitte à créer la sensation du tournoi en éliminant le favori numéro 1 du CHAN. Un favori qui a plus à perdre samedi qu'à gagner. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Merci Amine. Et à suivre samedi également, la Zambie face au Soudan à Marrakech. Dimanche, le Nigeria contre l'Angola à Tanger. Et puis enfin, à Agadir, toujours dimanche, le Congo-Brazzaville face à la Libye.
Le Gabon sorti de sa CAN de handball à Libreville.
Oui, l'équipe masculine du Gabon a été éliminée hier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Maroc. Une défaite 23-26. Dans les autres quarts de finale, la Tunisie a battu la République démocratique du Congo 38-21. l'Angola qui a dominé l'Algérie 29 à 27, et puis les Congolais de Brazzaville battus par l'Égypte 22 à 37. Les demi-finales, c'est ce vendredi, Tunisie-Angola et Maroc-Égypte.
Tennis Open d'Australie, Roger Federer en finale.
Ah oui, jamais inquiété par Chang Haeyeon, blessé au pied et contraint à l'abandon dans le deuxième set. Ce vendredi, en demi-finale de l'Open d'Australie, Roger Federer va défendre son titre face à Marin Cilic. Il n'est plus qu'à une victoire d'un 20e Grand Chelem.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Ah oui, les Golden State Warriors ont battu hier soir Minnesota 126 à 113. Les Warriors qui ont battu également leur record de panier à 3 points inscrit sur un match cette saison, à savoir 21 paniers à 3
VOA
points.
Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Le gouvernement burundais a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020 où le président Pierre Nkurunziza est autorisé à briguer un nouveau mandat de 7 ans si le référendum sur la constitution est accepté par les Burundais en mai de cette année. L'opposition dénonce un vol organisé contraire à la Constitution qui ne parle de solidarité nationale qu'en cas de catastrophe nationale. Le reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
Les ministres de l'Intérieur, ceux des Finances et de la Fonction publique ont rencontré les plus de 35 syndicats des travailleurs et l'Association des employeurs du Burundi pour trouver une issue à la contribution des fonctionnaires et des habitants du Burundi pour les élections de 2020. Le gouvernement burundais indique que ces contributions devaient être volontaires, mais les syndicats voient déjà dans l'ordonnance qui est sortie sur les montants du pourcentage du salaire fixe des citoyens une contribution forcée. Le représentant des travailleurs, qui était d'ailleurs présent à la rencontre, affirme que les cotisations des employés qui se font sans leur consentement peuvent avoir des retombées négatives chez les employeurs. Mais pour Tarsis Gaungu, représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, le début du dialogue social avec tous les partenaires peut aboutir à des décisions consensuelles.
Je crois que le retour n'a pas encore commencé. C'est vrai aussi que l'ordonnance ministérielle fixait les délais de commencement de ces cotisations. C'était 2018, donc nous sommes en janvier, nous approchons vers la fin du mois. Il est vrai aussi qu'on se trouve entre deux questions pertinentes. Le salaire qui est payé avec retard ou le salaire qui est payé avec les contributions non consensuelles. Je crois que nous devons trouver une solution. À mon avis, il faudrait que les travailleurs bénéficient de leur salaire en temps utile, donc juste à la fin du mois, et que les négociations vont continuer. Les ministres ont dit que la contribution était volontaire. Nous avons dit que nous voulons contribuer, mais que nous voulons contribuer à la mesure de nos moyens.
À la question de savoir quelle somme est nécessaire pour les élections de 2020, le ministre des Finances, Domitien Ndiokoubouaïo, reconnaît que pour le moment, il ne connaît pas encore le montant total pour les prochaines élections.
En tant que gouvernement, nous ne voulons pas collecter un excédent de fonds. Nous voulons juste ce qu'il faut. Quant à la question de combien il nous faut, je vous dis directement qu'on n'a pas encore les estimations, mais nous y travaillons. Estimer le coût des élections n'est pas chose simple.
Comme les fonctionnaires s'acheminent vers la fin du mois, il est difficile aujourd'hui de confirmer ou d'affirmer que le salaire du mois de janvier, date à laquelle débutent les contributions sur les salaires fixes, sera déduit du montant des contributions qui varient selon les salaires des fonctionnaires burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis, la journée internationale de l'amitié proposée par l'UNESCO est célébrée depuis 2011 dans l'espoir que l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus puisse inspirer les efforts de paix. Quelle est votre définition de l'amitié? L'amitié sur les réseaux sociaux est-elle fiable? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Au Mali, l'armée a tué 8 djihadistes à Youarou et perdu 2 hommes lors d'une attaque contre un camp militaire. Elle a procédé ensuite à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Par ailleurs, hier à Boni, toujours dans la région de Mopti, 26 civils ont perdu la vie dans l'explosion d'une mine. Près de 40 morts en 24 heures alors que plusieurs forces armées se bousculent au Mali pour combattre les djihadistes. Les réactions des Maliens avec notre correspondant Kassim Traoré.
De Diboli à Tenzawaten, de Labezanga à Eremakono, aucune région du Mali n'échappe à des attaques terroristes ou djihadistes. Pour le seul mois de janvier 2018, plus d'une cinquantaine de civils et militaires ont perdu la vie dans différentes attaques. Gabriel Tchenou, journaliste.
La multiplication des actes de terrorisme au centre du pays défraie aujourd'hui la chronique. Certes, l'armée a commencé à ne plus reculer, à prendre ses responsabilités, mais ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que le temps que nous avons mis avant d'intervenir pour barrer la route à ces bandits armés a été suffisamment long. Toute une année, ils étaient à la plupart à la merci des groupes armés qui leur ont fait épouser leur philosophie. Et même à malgré qu'ils ne sont plus quasiment là sur le terrain, ces adeptes, ceux qui ont épousé cette philosophie, pensent qu'il est de leur devoir, de leur responsabilité de mener le combat.
Les FAMA, les casques bleus, le G5 Sahel ou encore la force Barkhane sont toutes au Mali. Le pays est rempli de militaires et de soldats de toutes nationalités du monde. Mais ce sont les djihadistes à moto qui sèment la terreur. Kourotoumou Karabenta, étudiante.
Ces forces armées sont là tout simplement pour maquiller notre pays parce que réellement on ne voit pas de résultats. Vu leur présence ici, on ne voit pas de résultats. Ils font des va-et-vient dans leurs voitures, circulent tous les jours, dans les grosses voitures, dans nos populations, on ne voit pas de résultats. Même je pense qu'il faudra bien que nos forces armées s'investissent davantage. Pourquoi ne pas se mettre en civil aussi comme ces bandits armés le font? On peut aussi lancer des appels aussi à la population à collaborer aussi avec nos forces armées afin qu'ils puissent trouver une solution à ces attaques multiples.
Certains Maliens pensent que le Mali est victime d'un complot international, d'où l'immobilisme des forces en présence. Moussa Famba, Malien vivant en Côte d'Ivoire.
Ce que moi je vois, tant que 10 ans n'est pas arrivé, pour que les gars mettent terme à ces palabres-là, je ne crois pas. Tant que 10 ans n'est pas arrivé, et puis tant que les intérêts qu'ils enlèvent au nord, qui sont de l'or, des tris, tant que ça ne finit pas, ils ne vont pas nous libérer. Ils ne vont pas libérer le pays, ils ne vont pas nous libérer aussi. On a fait qu'observer les Occidentaux. Et puisque nos autorités même, ils sont dans le trou. Ils savent ce qui se passe au nord. Donc, eux aussi, ils ont des bénéfices dedans. Donc chacun gagne ton corps.
Et pourtant, le Mali a signé un accord pour la paix qui tarde à se concrétiser sur le terrain. Les protagonistes de cet accord continuent avec des réunions interminables à Bamako, alors que les djihadistes progressent de jour en jour. Docteur Lamine Sandi Aïdara.
Vous ne pouvez pas prétendre nous accompagner et ne pas observer la neutralité. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moyens de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes, il faut qu'elles observent toute la neutralité requise. Okay? Il faut aussi reconnaître que l'État malien aussi est un grand acteur dans ce processus, mais l'État malien est ignoré.
Malgré cette situation d'insécurité généralisée, les autorités maliennes disent qu'elles vont organiser les élections générales dans un pays où l'État ne parvient plus à sécuriser les populations et leurs biens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée, les déchets plastiques envahissent les rues et autres places publiques de la capitale Conakry. Le pays n'interdit pas la production, l'importation et la commercialisation de cette matière utilisée au quotidien par les Guinéens. La prolifération des sacs plastiques inquiète chercheurs et défenseurs de l'environnement. C'est un reportage du correspondant de VOA Afrique sur place, Zakaria Kamara.
Des emballages plastiques, il y en a en quantité sur tous les marchés de la capitale. Les Guinéens les utilisent pour la nourriture, les habits, les médicaments et bien d'autres articles gardés dans des sacs qui ont aussi remplacé les paniers de plusieurs femmes guinéennes. Pour ses courses et le marché, Fatoumata rentre toujours à la maison avec des sacs plastiques en main.
Généralement, quand nous venons pour faire des achats, dans les boutiques par là, on met souvent tous nos articles dans des plastiques. Certainement, c'est parce qu'il n'y a pas autre moyen, je crois.
Contrairement à Fatoumata, de nombreuses femmes ne savent pas que ces sacs sont nuisibles. Certaines les enflamment pour faire la cuisine, d'autres les déversent sur les places publiques, exposant ainsi l'environnement au risque de pollution. Alpha Omar est vice-président de l'Union africaine des ambassadeurs du climat et propose avant tout de sensibiliser les Guinéens.
D'après nos études et nos enquêtes, nous avons compris que si nous ne commençons pas par les sensibilisations, nous ne pourrons pas impacter les communautés, non plus des zones qui sont entièrement envahies par des déchets, même pas plastique, par toutes sortes de déchets. Et après ça, nous allons faire des formations en recyclage des chassés.
Ces emballages plastiques ne sont pas biodégradables, explique à VOA Afrique Aboubakar Camara, chercheur. Pour éviter leurs effets sur l'environnement, et défend la fermeture des usines qui les fabriquent.
Ces produits peuvent faire des milliers d'années, des siècles, sans qu'ils soient décomposés. L'eau ne peut pas dissoudre ces plastiques. Comme c'est des pollutions, c'est des substances non biodégradables. Donc la solution, c'est la prévention. C'est-à-dire fermer systématiquement toutes les usines qui produisent ces emballages en plastique et faire comme beaucoup d'autres pays africains qui ont trouvé une solution à la place des emballages plastiques. Ils ont trouvé d'autres formes d'emballages. Notamment des emballages en papier, en carton.
Faire des sacs papier, c'est l'ambition d'Ibrahima Souri, ancien informaticien comptable.
3 mois, je m'inspirais pour pouvoir confectionner correctement les sacs biodégradables. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi à le faire. Ça, c'est dans le cadre de mon apport, de mon soutien, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique parce que la Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies sur l'environnement.
Dans son magasin, plus de 1000 sacs papier qu'Ibrahima a confectionné manuellement et tout seul. Mais aucun sac n'a été vendu depuis la création de Guinée Manufacture il y a 18 mois.
Je n'ai jamais encore réussi à vendre même un demi-sac depuis que j'ai commencé le travail. Parce que la culture n'est pas encore instaurée en Guinée. Et pour que cela y ait, j'ai besoin l'accompagnement politique.
La capitale guinéenne produit plus de 2000 tonnes d'ordures par jour. Des déchets liquides, mais aussi solides dont la mauvaise gestion, poussent certains Guinéens à déverser des objets de rebut sur la chaussée ou encore les entasser le long des routes. Zakaria Camara Conakry, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
La musique burkinabé sera à l'honneur ce week-end à Los Angeles. Les Grammy Awards, les prestigieuses récompenses de la musique américaine, ont sélectionné l'album burkinabé Bobo Yeye, Belle Époque en Haute Volta, qui a été nominé pour 2 Grammy Awards. Il s'agit d'une compilation d'enregistrements des années 70 dans la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso. Justement, à Bobo, la nouvelle a surpris certains musiciens qui se demandent comment leurs œuvres se sont retrouvées sur une compilation. Bagasikura.
Bobo Yeye est une compilation de la musique des années 70 à Bobo-Dioulasso. C'est le producteur français Florent Mazzolili qui a pris l'initiative de créer cette compilation de 3 CD.
Parce que c'est des artistes que j'admire depuis toujours et j'ai écrit une 20aine de livres sur la musique africaine, dont un livre en 2011 qui s'appelle « Burkina Faso, musique moderne voltaïque ». C'est là que j'ai rencontré à la fois le photographe Souri Sanlé et puis les derniers musiciens encore vivants de cette époque, les gens du Dafra Star et de Volta Jazz de Bobo Dioulasso. Donc j'ai collecté des enregistrements, les cassettes, les disques, les photos. J'ai fait beaucoup d'interviews, puis j'avais beaucoup de matériel. Donc j'ai proposé au label Lumière au groupe et ils m'ont répondu très rapidement. Et on a décidé de faire ce coffret qui est sorti en 2016.
Tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un blanc qui a passé ici.
Stanislas Souré est l'un des musiciens du groupe Volta Jazz.
Il a essayé d'avoir des renseignements sur la vie des orchestres d'antan, comment les orchestres évoluaient, combien il y avait d'orchestres, et puis la manière de jouer la musique, la composition des groupes et tout consort. Bon, pour nous, eh bien, c'était dans un cadre de faire au moins une historique de ce qu'on appelle la musique d'antan par rapport à la musique d'aujourd'hui. Mais quand on a parlé de faire une compilation et des trucs comme ça, on n'a jamais fait cas de ça. Jamais, jamais, jamais.
Stanislas Souré n'est pas seul. Nuhunu Traoré du groupe Echo de Africa s'est dit fier de savoir que sa musique a été nominée pour les Grammy Awards. Lui, il reconnaît toutefois avoir collaboré pour un livre sur la musique, mais pas pour une compilation.
Quand il est venu pour prendre mon nom, là, aller faire son livre-là,
C'est le livre, c'est pas du disque, ce qu'il m'avait dit. Mon fils a proposé qu'il n'a qu'à me donner quelque chose. Il m'a donné 200 000 francs ce jour-là. Bon, pour aller faire le livre. Mais pour ça, là, il m'a pas dit ça. Il a pris de bande de notre patron, qui est Tanou Bassongolo. Mais c'était une bande pourrie, quoi. Il m'a dit qu'il va aller voir s'il peut récupérer ça. Il est passé, il n'est plus revenu. Il m'a pas appelé, il m'a rien dit après.
Donc, à me contacter à ce moment-là, moi, j'ai été rencontrer les artistes. J'ai fait des dizaines de voyages au Burkina Faso, au Bobo Dioulasso. J'ai rencontré les fondateurs du groupe, les gens qui avaient les contrats d'époque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je ne peux pas rencontrer tout le monde. Et puis évidemment, quand il y a un projet comme ça qui sort et puis qu'on en parle avec le Grammy Award, ça attire l'intérêt de certaines personnes.
Cette nomination au Grammy Award.
Voilà, fin de cette édition. La suite de ce reportage dans nos prochaines éditions. Merci à Sims Lumami. Merci également à Dan Crafton. Moi, c'est Abdourahmane Dia. Au revoir.